You're with SBS Radio.
Les grands titres de ce jeudi 11 avril. En Australie, le Premier ministre Scott Morrison a annoncé la date des élections générales pour le 18 mai prochain. Élections en Inde à partir de ce jeudi et elles vont durer jusqu'au 19 mai prochain. La Première ministre britannique Theresa May et les 27 dirigeants de l'Union européenne se sont mis d'accord sur un report du Brexit au 31 octobre prochain. Les élections générales en Australie auront lieu le 18 mai prochain. Le Premier ministre Scott Morrison a fait l'annonce ce matin.
You will have the choice between a government that is delivering a strong economy and will continue to do so, or Bill Shorten's Labor Party, whose policies would weaken our economy. You will get to decide between a government that has fixed the budget or Bill Shorten's Labor Party that we always know. Can't manage money.
Le chef de l'opposition fédérale, Bill Shorten, a réagi.
The election's been called that we will deliver more jobs, better health and education, help push energy prices down. We'll get on top of cost of living burdens and we'll get wages moving again in this country because my team is united. Australians face a real and vital choice at this election. Do you want Labor's energy versus the government's tiredness? Labor's focus on the future versus being stuck in the past. Labor's positive plan for all Australians or a negative fear campaign from the other side. Do you want a united government under Labor or another 3 years of division following the last 6 years of division under the current government?
Bill Shorten, le chef de l'opposition fédérale, le sénateur Matt Canavan de la coalition libérale faisait campagne dans la circonscription de Herbert au Queensland. La coalition espère regagner ce siège des travaillistes. On l'écoute.
There's a very clear choice here at this election. There's a team that's on the side of jobs like ourselves, who unequivocally backs projects like Adani and wants to see our nation develop. And there's a side that's on the side. There's a team that's on the side of the mobs, on these vegan activists, on the side of the Stop Adani crew. But we stand for jobs, not mobs.
Voilà le sénateur Matt Canavan qui parlait de la mine de charbon Adani qui a reçu le feu vert de commencer ses opérations au Queensland. La première ministre britannique et les 27 dirigeants de l'Union européenne se sont mis d'accord sur un report du Brexit au 31 octobre prochain. Reportage Anissa El-Jabri pour Radio France Internationale.
Ce qu'il y a sur la table, c'est 6 mois et demi supplémentaires avec un point d'étape en juin. Cette proposition, dit l'Élysée, a été défendue par plusieurs pays, l'Espagne, la Belgique, le Luxembourg et Malte, ainsi que la France. Elle correspond, dit un diplomate français, à une date qui a du sens. C'est le 1er novembre que la nouvelle commission va entrer en fonction. C'est à ce moment-là que le Parlement européen commence vraiment ses travaux. Bref, cette date poussée par la France serait le meilleur compromis pour ne pas entraver le fonctionnement de l'Union européenne. La réalité serait un petit peu plus nuancée, c'est ce que rapporte l'agence Reuters. Des délégations auraient été irritées par le comportement de la France. L'insistance d'Emmanuel Macron à demander le délai le plus court possible au 30 juin. Il a fallu des heures pour le faire redescendre, a confié un diplomate à cette heure-ci. On ne sait toujours pas, en tout cas, s'il y a les garanties souhaitées par Paris pour une extension, si les Britanniques, par exemple, pourraient décrocher un commissaire européen.
Anissa El-Jabri pour RFI. En Israël, le Likoud de Benjamin Netanyahou a suffisamment de sièges pour former le prochain gouvernement après les élections de mardi dernier. Explication de Michel Paul pour RFI.
Après près de 24 heures de retard, les dirigeants du parti bleu-blanc reconnaissent leur défaite et ils s'engagent à combattre Benjamin Netanyahou depuis les bancs de l'opposition. « Nous transformerons la Knesset en véritable champ de bataille », affirme-t-il. Les résultats officiels des élections israéliennes n'ont pas encore été rendus publics. En principe, le décompte des voix des militaires et des diplomates devrait s'achever à la mi-journée et il pourrait provoquer plusieurs changements dans la configuration du nouveau Parlement. Mais déjà, les tractations non officielles pour la formation de la nouvelle coalition gouvernementale ont débuté. On note des demandes de la part des futurs partenaires du Likoud qui risquent d'être problématiques pour Benjamin Netanyahou, notamment de la part d'Avigdor Lieberman, l'ancien ministre de la Défense dont la démission avait provoqué les élections anticipées. Il réclame à nouveau le même portefeuille avec cette fois carte blanche pour agir à Gaza. Au parti travailliste, après l'amère défaite, c'est maintenant le moment des règlements de compte. Et un autre problème pour Netanyahou, les avocats du chef du gouvernement israélien vont recevoir les pièces à conviction qui l'incriminent afin qu'il prépare sa défense dans 3 affaires de corruption et d'abus de pouvoir.
Et puis, c'était Michel Paul pour RFI. Les Palestiniens ont réagi à la victoire de Benjamin Netanyahou. Reportage de Marine Vlaovic pour RFI.
Israël a choisi le racisme et le conflit permanent, dénonce Hanan Ashraoui du comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine, qui regrette que les électeurs aient voté en masse pour des candidats décidés à enraciner le statu quo de l'oppression et de l'annexion, tout en déplorant un futur parlement israélien dominé par la xénophobie et le sentiment anti-palestinien. Le secrétaire général de l'OLP, Saeb Erekat, souligne quant à lui sur Twitter que les Israéliens ont dit non à la paix et oui à l'occupation et constate que les 4/5 des députés élus ne soutiennent pas la solution à 2 États dans les frontières de 1967. La victoire probable de Benjamin Netanyahou inquiète les dirigeants palestiniens. Le premier ministre israélien sortant a annoncé pendant la campagne être prêt à annexer les colonies israéliennes de Cisjordanie, de quoi mettre à mal la création d'un futur État palestinien.
Marine Vlaovic pour RFI. En Algérie, le chef d'état-major de l'armée, Ahmed Gaïd Salah, s'est exprimé hier et demande aux Algériens de faire preuve de patience et surtout, je cite, de faire attention aux manipulations étrangères. Le président algérien par intérim, Abdelkader Ben Salah, a signé un décret fixant au 4 juillet prochain l'élection présidentielle. Reportage Amin Safar, RFI.
Ahmed Gaïd Salah en fait la promesse. Il est le garant de la période de transition. Mais les Algériens devront prendre leur mal en patience. Hors de question de chasser du pouvoir dans l'immédiat les responsables politiques qui incarnent le système. La volonté de la rue se heurte à la constitution algérienne et le militaire de 79 ans ne souhaite pas sortir du cadre légal. Il y aura bel et bien un renouvellement des dirigeants, mais cela se fera par les urnes. Une élection présidentielle doit se tenir le 4 juillet prochain. Ahmed Gaïd Salah appelle également les Algériens à la prudence. Une malveillance étrangère tente de déstabiliser le pays. Les regards se sont très vite tournés vers Paris, mais selon un politologue interrogé ici à Alger, cet avertissement est vide de sens. Ce n'est ni plus ni moins qu'une vaine tentative d'effrayer la rue dans l'espoir d'un retour au calme. Enfin, le chef d'état-major donne des gages. Il promet de rouvrir des enquêtes concernant les grosses affaires de malversation qui ont secoué le pays ces dernières années.
Amine Safar pour RFI. Première phase des élections en Inde, ce jeudi dans 20 États et territoires du pays. Les élections vont durer jusqu'au 19 mai prochain. Les élections sont perçues comme un référendum sur le BJP, parti du Premier ministre Narendra Modi. Analyse de ces élections avec Jean-Luc Racine, directeur des recherches au CNRS.
Le parti du Congrès, qui avait connu une défaite sans précédent en 2014 lors des dernières élections générales, on mettait en doute la capacité de Rahul Gandhi à diriger le parti dont il est devenu le président en 2017. Le Congrès relève la tête, mais on ne sait pas si ce sursaut congressiste, et Rahul Gandhi attaque Modi jour après jour, pourra se concrétiser d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire au moins de regagner du terrain si le BJP devait de nouveau arriver au pouvoir, en préparant l'avenir en quelque sorte, ou bien si les choses contredisaient un peu les dernières prévisions, si le Congrès réussissait à monter des alliances suffisamment fortes pour mettre vraiment le BJP en difficulté. On n'en est pas tout à fait là aujourd'hui, semble-t-il.
Jean-Luc Racine, directeur des recherches au CNRS. En Nouvelle-Zélande, la loi pour interdire les armes à feu a été votée hier 119 voix contre une. Écoutons la première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern.
Most importantly, we are here because of the victims and families. And I have to reflect, Mr. Speaker, that when I visited the hospitals and the victims, that none of them had just one gunshot wound. I struggle to recall any single gunshot wounds. In every case, they spoke of multiple injuries, multiple debilitating injuries that deemed it impossible for them to recover in days, let alone weeks, Mr. Speaker. They will carry disabilities for a lifetime, and that's before you consider the psychological impact.
La première ministre néo-zélandaise et maintenant le reportage d'Emeline Vint pour Radio France Internationale.
L'examen du projet de loi n'a duré que 10 jours, un record. Les propriétaires de ces armes militaires, comme les fermiers ou les chasseurs, ont jusqu'au 30 septembre pour les remettre aux autorités qui lancent un programme de rachat. Après cette date, ils seront passibles de 2 à 10 ans de prison. Ces mesures restrictives, c'était une évidence pour la première ministre dès qu'elle a parlé avec les policiers juste après l'attentat de Christchurch.
Ils m'ont décrit les armes utilisées et ils m'ont dit qu'elles avaient été acquises légalement. Je ne pouvais pas faire face aux victimes et leur dire la main sur le cœur que notre système, nos lois permettent d'obtenir ces armes et que ça ne pose pas de problème.
Un seul député, unique élu du Parti libéral ACT, a voté contre la loi, seul face à 119 voix pour. Jacinda Ardern a salué une unité historique.
Depuis que je suis là, j'ai rarement vu le Parlement se rassembler comme ça et je ne peux pas imaginer de circonstances plus propices.
Than it is now. Au-delà du Parlement, la Première ministre affirme avoir le soutien des citoyens malgré la procédure express. Elle insiste, ces armes étaient faites pour tuer, seulement pour tuer. À partir de ce vendredi, elles n'auront plus leur place en Nouvelle-Zélande.
Emeline Vint pour RFI. Les plus grands commerçants d'armes à feu en Australie sont sur le point de faire pression pour une amnistie permanente des armes à feu pendant la campagne électorale pour tenter de sortir les armes illégales des rues. La Shooting Industry Foundation of Australia représente les 5 plus grands fournisseurs d'armes de la nation. Le groupe affirme avoir déjà dépensé 30 000 $ en annonces qui seront publiées dans les journaux dans les prochains jours. Une des publicités exhorte les électeurs à demander aux députés et aux candidats ce qu'ils vont faire pour retirer les armes illégales de la rue. Cette annonce intervient juste un jour après que le Parlement néo-zélandais ait interdit la plupart des armes semi-automatiques et des fusils d'assaut dans le pays. Des astronomes ont réussi à photographier un trou noir situé au centre d'une autre galaxie, située à 53 millions d'années-lumière de la Terre. Ce trou noir pèse 6,4 milliards de fois la masse du Soleil. Explication de Simon Rosé pour RFI.
Un disque orange qui tire sur le rouge et au centre une masse noire. L'image n'est pas spectaculaire, mais elle est pourtant historique. Voici le trou noir supermassif qui trône au centre de la galaxie M87, le premier jamais photographié par l'humanité. Que nous apprend cette image ? Eh bien, une nouvelle fois qu'Albert Einstein était dans le vrai. Sa théorie de la relativité générale avait permis d'anticiper ce à quoi pouvait ressembler un tel objet en réalisant des simulations numériques. Cette première image confirme que les modèles utilisés étaient les bons. Le cercle orange, c'est la matière qui tourne autour du trou noir. Elle est sur le point d'être absorbée. Plus elle s'en approche, plus elle va vite jusqu'à rougeoyer, trahissant du coup le trou en son centre, cette masse noire circulaire dont rien ne sortira plus jamais, même pas la lumière. Pour y parvenir, il a fallu réaliser un véritable tour de force. Ce trou noir se trouve à 53 millions d'années-lumière de la Terre, 5 milliards de milliards de kilomètres de nous. Pour le photographier, il a fallu réaliser une sorte de télescope virtuel faisant la taille de la Terre, en synchronisant des télescopes du monde entier. Des centaines de scientifiques de dizaines de nationalités différentes ont été impliqués.
Simon Rosé pour RFI. Un mot de sport, le foot. Sydney FC a fait un match nul, 3-0 avec Shanghai dans le cadre de la Asian Champions League à Sydney hier soir. Le milieu de terrain, Sion De Jong de Sydney FC, se dit déçu du résultat.
We scored a few good goals and took the lead and eventually took the lead again in the second half and I thought that was it, but the last few minutes they scored the 3-3 and it was we needed a win. Yeah, I mean of course if you concede in the last few minutes it's a lot different than maybe scoring in the last few minutes, but for us today we needed 3 points. That was all we wanted and yeah, we were really close, but eventually in the end it wasn't enough.
Coup d'œil météo pour ce jeudi en Australie. Perth maximal de 26 degrés, Adélaïde 22, Melbourne 18, Hobart 18, Canberra 21, Sydney 21 également, Brisbane 27, Cairns 30, Darwin 33 et à Alice Springs maximal de 31 degrés. Un rappel des grands titres de ce jeudi. En Australie, le Premier ministre Scott Morrison a annoncé la date des élections générales pour le 18 mai prochain. La Première ministre britannique et les 27 dirigeants de l'Union européenne se sont mis d'accord sur un report du Brexit au 31 octobre prochain. Fin du journal. Merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.